Quelques mots tout d'abord pour situer la Convention dans son contexte historique, comme je l'ai fait déjà hier soir. Il y a une trentaine d'années, je me suis rendu dans le petit village d'Establé, en Drôme provençale. C'est dans ce village que la bergère s'est levée au cours d'une réunion de prière pour dire « Dieu m'a montré que je devais vivre maintenant pour lui et non plus pour mon troupeau ». Lors de ma visite dans ce village, j'ai rencontré une dame âgée qui gardait le souvenir de ce réveil. Elle était alors enfant. Je ne sais pas si je l'ai redit ce matin, c'était durant l'été 1922. Donc il vient d'y avoir 100 ans exactement. Et cette dame m'a dit, on chantait beaucoup pendant ce temps-là. Le dimanche matin, tout le monde sortait de sa maison en chantant, et nous arrivions ensemble au temple au son des cantiques. Magnifique, n'est-ce pas? Je crois qu'en Afrique, c'est comme ça quelquefois, encore aujourd'hui. Ce réveil a duré de 1922 à 1938. C'est de ce réveil que sont nées les conventions chrétiennes, d'abord dans la vallée de la Drôme, et puis en Cévennes, et même au-delà, en Ariège et encore dans d'autres régions, pour appeler les chrétiens à la consécration, et les non-chrétiens à la conversion. Je voudrais juste mentionner un des mots d'ordre de ce réveil, qui a duré quand même plus de 15 ans, « Dieu n'a pas changé ». Samuel Cabot a rappelé le thème de cette convention, « Que signifie appartenir à Jésus-Christ ?» On pourrait faire un sondage dans la rue et poser la question. Je cite le verset 14 du chapitre 2 de la lettre de Paul à Tite. C'est sur ce verset que se portera ma méditation. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de belles actions ou pour de belles œuvres. Si quelqu'un dans la rue nous demande à brûle-pourpoint, à qui appartenons-nous? Combien seraient en mesure de répondre spontanément, j'appartiens à Jésus-Christ? Il est assez peu probable que la question nous soit posée, mais cette question pourtant est d'une grande importance. Elle nous est posée ce matin par le verset mis en exergue. Je le relis. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. J'illustre cela avec le psaume 23 que nous aimons tous beaucoup, bien sûr. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Beaucoup aimeraient être à la place de cette brebis qui ne manque de rien. Mais est-ce que c'est là la principale caractéristique de cette brebis? Non, la principale caractéristique, c'est qu'elle appartient au berger. Et la conséquence du fait qu'elle appartient au berger, c'est qu'elle ne manque de rien. Et donc, il ne suffit pas de dire « je ne manquerai de rien », parce que peut-être je vais manquer de quelque chose bientôt, mais d'abord, de savoir dans le fond de son cœur que j'appartiens au Seigneur. Alors, celui qui sait qu'il appartient au Seigneur peut dire « je ne manquerai de rien », même s'il lui manque encore beaucoup de choses. Cette brebis sait qu'elle appartient à son berger, elle en est sûre, quoi qu'il arrive. Changement climatique n'y change rien. Elle est marquée comme au fer rouge. Elle ne sait pas ce qui va se passer dans une heure. Elle ne sait pas combien de temps elle va vivre. Mais elle sait qu'elle appartient au Seigneur et que cela est irréversible. Trop de chrétiens vivent comme des orphelins. Hier soir, un des deux pasteurs, je crois Philippe Dominguez, a cité ce verset, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Paul dit ça aux membres de l'Église, bien sûr. « Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. » L'oublier, c'est sortir de la foi. Je pense à cette parole de Charles Spurgeon, « Chrétien, cesse d'offenser ton Seigneur en portant sans cesse un front soucieux. » Si vous me croisez dans la rue, rappelez-moi cette parole. Hier, Christophe Desplanques a cité le catéchisme de Heidelberg, 1563 quand même, qui commence avec cette question, donc je rappelle la question, elle est magnifique. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Réponse, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Je trouve cette réponse vraiment magnifique. Et je l'imagine dans la bouche d'un enfant de 8 ans. Pourquoi pas? Et je l'imagine dans la bouche d'un vieillard. Mon unique assurance est que j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon unique sauveur, corps et âme. Appartenir à Jésus-Christ peut devenir ma plus grande joie et ma plus grande assurance. Et je trouve que c'est beaucoup. Cependant, la pointe de notre texte n'est pas cela. La pointe de notre texte, je crois pouvoir le dire, c'est la joie du Seigneur qui se fait un peuple pour lui. Alors tant mieux pour le peuple, tant mieux pour la brebis. Nous sommes concernés directement. Mais la pointe du texte, c'est la joie du Seigneur qui se fait un peuple qui lui appartienne. Nous n'y songeons pas assez. C'est pour lui. L'oublier, c'est aussi sortir de la foi. Et là, je voudrais l'illustrer avec la parabole de la brebis perdue. Luc chapitre 15, la plupart connaissent bien ce passage. Un berger a 100 brebis. Le soir, au moment de se coucher, il en manque une. Que fait-il? Il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Quand il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Il rentre chez lui, il appelle ses voisins et ses amis et il dit « Réjouissez-vous avec moi, car ma brebis qui était perdue est retrouvée. » Pas un mot de la joie de la brebis dans ce passage. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Alors, on peut supposer qu'elle était dans la joie, et même on en est sûr. Mais la pointe du texte, c'est la joie du berger. Et la parabole de la drachme perdue qui suit exactement, c'est pareil. Cette femme balaie sa maison jusqu'à ce qu'elle trouve sa pièce. On n'a jamais vu une pièce se réjouir, n'est-ce pas? Mais la dame dit, elle appelle ses voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi ». Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. La finalité, c'est la joie du Seigneur. Si vous êtes chrétien, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez en charge la gestion de la propriété de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur Jésus. Permettez-moi un petit aparté pour les couples. Il doit bien y avoir quelques couples parmi nous ce matin. Dans un couple aussi, chacun gère la propriété de quelqu'un d'autre. Parce que le mari ne s'appartient pas à lui-même, mais à son épouse. Et l'épouse ne s'appartient pas à elle-même, mais à son mari. Paul le dit dans sa première Corinthiens, chapitre 7. Et donc ce qui importe dans un couple, pour ceux qui sont concernés, ce n'est pas simplement eh bien, ma joie ou ma tristesse ou ma joie, c'est aussi, et c'est même d'abord, la tristesse et la joie de celui ou de celle à qui j'appartiens. Beau programme. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la relation de couple qui unit l'Église et Jésus-Christ, le peuple de Dieu et Jésus-Christ. Voilà. Paul le dit aussi dans Éphésiens 5, celui qui aime son conjoint s'aime lui-même, celui qui aime son épouse s'aime lui-même. Jésus-Christ nous aime, aimons-le. Jésus-Christ se soucie de notre joie, de notre sécurité. Il pourvoit à nos besoins. Notre souci, c'est la joie de notre Seigneur. Le texte nous parle aussi d'un peuple saint, un peuple saint dans toute sa conduite. Le mot saint, le mot sainteté, nous renvoie à la conduite, à la manière de se conduire, de marcher, de diriger sa vie. C'est normal. Il ne suffit pas de faire des beaux discours. Mais la notion de sainteté nous renvoie d'abord à l'idée d'appartenance. Et saint, celui qui appartient à Dieu. Les saints sont ceux qui appartiennent à Dieu. On pourrait dire, dès lors qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, dès lors qu'il appartient à Jésus-Christ, un homme et une femme peut être appelé un saint. Il est saint. Il est déjà sanctifié, il doit maintenant marcher d'une manière sainte. Et donc, la manière de se conduire est la conséquence de l'appartenance. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu es un saint, tu es une sainte. Il te revient maintenant de marcher conformément à cette appartenance. La notion d'appartenance est complétée, augmentée, si on peut dire, par la dimension de la consécration. Et là, on est vraiment dans la vocation des conventions chrétiennes. Et quelquefois, s'il le faut, j'aurais pas dû dire quelquefois, quand il le faut, l'idée de séparation. Consécration et séparation. Appartenance, consécration, séparation, c'est la notion biblique de sainteté. Ça vaut la peine de le rappeler, je crois, de temps en temps. Pourquoi la consécration? Parce qu'à Dieu, on appartient entièrement ou pas du tout. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Qui n'a pas donné son cœur n'a rien donné. C'est comme un homme qui dit à sa femme « je t'aime » et qui pense à une autre. Dieu est jaloux de notre cœur. C'est écrit plusieurs fois. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu jalouse l'esprit qu'il a déposé au fond de nous. Quelqu'un dira « c'est bien difficile » et je rétorquerai, ce n'est pas difficile, c'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, Dieu le demande. Et donc, s'il le demande, c'est possible. Donc, c'est impossible, mais c'est possible par la foi en Jésus-Christ. Et donc, la foi en Jésus-Christ, comme Samuel l'a très bien dit tout à l'heure, non seulement nous permet de recevoir le don que Jésus-Christ a fait pour nous, mais nous permet de nous donner aussi à lui. C'est-à-dire, sans Jésus-Christ, Dieu ne se donne pas à nous. En Jésus-Christ, Dieu se donne à nous. Mais sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous donner à Dieu. En Jésus-Christ, nous nous donnons en Dieu, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, on va le rappeler avec le repas du Seigneur, Jésus-Christ donne sa vie pour nous, en prenant ce repas, nous donnons notre vie à Dieu par Jésus-Christ. Et donc, c'est bien dans les deux sens. Et donc, comme dit le Cantique des Cantiques, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Voilà, c'est sur ce verset que mon beau-père a prêché le jour de mon mariage. Mais, voilà... L'épouse ne s'appartient pas, elle appartient à son mari. Et de même, le mari ne s'appartient pas, mais il appartient à son épouse. Cette réciprocité, la Bible appelle la communion, tout simplement. Pas simplement le pardon de nos péchés, mais la consécration entière au Dieu qui s'est donné entièrement à nous dans la personne de son Fils. Le mot « sacrifice » n'est pas un mot étranger au vocabulaire chrétien. On n'est pas seulement chrétien pour aller bien. J'ai évoqué le mot « séparation ». C'est un mot qui peut sonner difficilement à nos oreilles. Pourquoi « séparation » ? Parce que qui ne se sépare pas de ses idoles est un idolâtre. Ranger les idoles dans un placard ne suffit pas. Il faut les mettre dehors. Frères et sœurs, il y a des freins, il y a des problèmes dans les églises parce qu'il se trouve dans nos cœurs et dans nos maisons des idoles, des comportements, des habitudes qui ne devraient pas s'y trouver. Et même si personne n'est au courant, ces choses-là constituent des obstacles. On aura beau prêcher, on aura beau prier, on n'avancera guère tant qu'on ne se sera pas séparé de ceux qui irritent notre Seigneur, notre Dieu. Le refus de se séparer, c'est une forme d'adultère qui attriste le Saint-Esprit. Sommes-nous conscients, par exemple, qu'une faute commise par un chrétien est plus grave que la même faute commise par un non-chrétien? Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, ce n'est pas simplement moral, n'est-ce pas? C'est une question d'alliance. C'est une question d'amour blessé. Sommes-nous conscients qu'une faute liée au cœur ou à la maison d'un chrétien, même en secret, pénalise le peuple de Dieu tout entier? Si je tombe dans ma maison, l'Église aura de la peine à avancer. Si je suis béni dans ma maison, c'est gagné pour l'Église tout entière, même si personne ne le sait. Savons-nous pourquoi l'Esprit de Dieu est appelé saint? Parce qu'il est entièrement séparé de tout mal. Tel est l'Esprit qui habite le cœur du chrétien, tel est l'Esprit qui réside au milieu du peuple que Dieu s'est acquis. Alors ce chrétien est-il séparé physiquement des non-chrétiens, par exemple? Certes pas. Il va à l'école, il va au travail, il va dans les magasins, peut-être même il a la télé comme tout le monde. Mais à l'école, au travail, dans les magasins et devant la télé, s'il en a une, il est capable de dire oui, 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 mais là non. Non pas timidement, mais avec détermination, comme Jésus l'a fait lui-même. Oui, 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 mais là non. Un enfant dans la cour d'une école qui dirait toujours non serait inquiétant, n'est-ce pas? Pareil pour un adulte. Mais un enfant qui dirait toujours oui, vous voyez ce que ça veut dire? Et ça nous concerne aussi directement. Oui, 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 mais là non. C'est la manière pour le peuple de Dieu d'être zélé pour de belles actions, pour de bonnes œuvres. Comme le texte nous le dit, ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour le fruit qui glorifie, qui parle du Seigneur, qui attire les regards vers le Seigneur. Voilà ce que je veux dire pour terminer mon message. La réalité du peuple de Dieu commence à la maison. Ses commandements seront dans ton cœur et dans ta maison. Et aussi quand tu partiras en voyage, dit Moïse au peuple de Dieu. D'abord dans la maison, même si je vis seul dans ma maison, et je devrais dire même dans la chambre, porte fermée, comme le dit Jésus à ses disciples. Sinon, il y a un risque assez important de mascarade. Au XVIIIe siècle, ceux qui allaient chanter des cantiques et écouter les prédicateurs au péril de leur vie dans les montagnes Cévenoles lisaient aussi la Bible tout seuls en gardant leurs chèvres ou en famille le soir dans la cuisine, à la lueur de la chandelle, les rideaux tirés, les volets fermés. Je ne sais pas quel est le risque principal aujourd'hui, l'individualisme, chacun tout seul devant son écran, ou le collectivisme. On est heureux quand il y a des réunions, mais entre les réunions, pas grand-chose. En fait, les deux dangers existent, et même en même temps. L'individualisme, qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que ça me fait du bien? C'est légitime, mais ce n'est pas la finalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou le collectivisme, des rencontres, des animations, des manifestations, et entre ces moments, pas grand-chose. Le repas du Seigneur que nous allons partager tout à l'heure nous rappelle que la vie chrétienne, que le chrétien n'est ni un individualiste, ni un collectiviste, c'est autre chose, c'est la dimension de corps de Christ, un peuple qui lui appartient, zélé pour de bonnes œuvres. Un cœur qui n'existe pas en pointillé le dimanche matin, encore deux fois dans la semaine, mais un corps qui existe en continu. En fait, l'Église existe en continu, quand je suis seul ou quand je suis avec mes frères et mes sœurs. L'Église ne s'interrompt pas, c'est tout le temps l'Église. Et ce que je vis tout seul affecte l'Église d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. On ne peut pas dissocier le chrétien du peuple de Dieu. Je veux conclure avec quelques rappels dits de manière lapidaire. Tu ne peux pas appartenir à l'Église de Jésus-Christ si tu n'appartiens pas d'abord à Jésus-Christ et inversement. Tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ sans appartenir à son peuple, à son Église. N'appartenir qu'à l'Église ou qu'à Jésus-Christ, ça n'existe pas. Si tu es chrétien, chrétienne, tout ce qui te touche en bien ou en mal touche aussi ton Seigneur. En tant que chrétien, en tant que membre de son corps, qui vous touche, touche la prunelle de mon œil, dit Dieu par le prophète Zacharie. Si tu es chrétien, tout ce que tu fais à ton frère ou à ta sœur dans la foi, en bien ou en mal, tu le fais à Jésus-Christ. Je suis Jésus que tu persécutes, dit Jésus à Saul de Tarse. Saul ne pensait même pas à Jésus, il pensait que c'était fini. Mais Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, et persécutait des chrétiens comme nous. Tout ce que tu vis, en bien ou en mal, même quand tu es seul, même si personne ne le sait, affecte l'Église tout entière. Je le redis, d'une manière ou d'une autre, l'Église, ce n'est pas seulement l'heure du culte, c'est tout le temps quand nous sommes rassemblés Et quand nous sommes seuls, nous appartenons au Seigneur. Quand j'étais pasteur à Vauvert, j'ai visité un frère âgé et malade. Et au moment de le quitter, il m'a dit « Ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. » Ma, quelle maturité, frères et sœurs, de pouvoir dire cela, n'est-ce pas ? Ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. Il a résumé la vocation du chrétien. J'aimerais que ça soit ma prière, hein, et j'aimerais que ça soit notre prière.